Radio Grand Ciel présente Be Jazz, soyez jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Nous avons évoqué dans notre troisième série d'émissions les génies du jazz avec Patrick Durand et Gilles Secaz. Patrick Durand, un médecin, qui explique le cheminement de compréhension du jazz par sa connaissance de la neurobiologie. Gilles Secaz, il est journaliste, il pratique la guitare dans les formations de jazz. Patrick Durand est venu avec son piano. Bonjour Patrick Durand.
Christiane Blain, bonjour.
Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Aujourd'hui, nous étudierons les génies de la guitare. Aussi, nous allons tenter de cerner trois personnalités d'exception. Trois guitaristes qui ont su placer par leur inventivité, leur maîtrise technique et leur jeu remarquable, la guitare en pleine lumière et lui donner une vie authentique dans le jazz. Charlie Christian, John Reinhardt et Wes Montgomery.
Christiane Blain, aujourd'hui, effectivement, nous sommes très contents de parler de la guitare puisque nous avons un guitariste qui est présent avec nous. Et il nous montrera un petit peu, il nous dira du côté technique ce qui fait que la guitare a pu s'exprimer alors qu'au départ, elle était quand même un instrument qui était mis, on va dire, en arrière-plan, la cause étant surtout la puissance des autres instruments, c'est-à-dire la puissance de la batterie qui domine particulièrement. Ensuite, tous les instruments avant, qu'il s'agisse de la trompette, ou du saxophone.
Ne parlons pas des pianistes, Patrick.
Oui, voilà. Et donc, bien sûr, sur les grands orchestres, il y avait des difficultés à entendre cette guitare. Et puis est arrivée la guitare électrique.
Alors ça, c'était au début des années 30.
Voilà, et qui permet donc d'entendre un petit peu mieux cet instrument. Néanmoins, au point de vue technique, nous avions déjà des grands artistes, mais qu'on n'entendait pas.
On avait de grands artistes en guitare acoustique, c'est vrai, en jazz, mais la guitare acoustique restait en arrière-plan pour la section rythmique. Il faudra attendre que certains, comme Eddie Durham par exemple, introduisent l'amplification de la guitare, pour que enfin les guitaristes puissent jouer un rôle de soliste au sein de l'orchestre. Mais nous allons y revenir.
Alors, nous allons écouter un premier exemple. Je crois que tu viens de parler, Gilles, de Eddie Durham. Et nous allons écouter à présent un thème qui s'appelle « I'm Forever Blowing Bubbles » par George Barnes.
Ça, c'est 1940.
1940. Et Gilles, guitariste, va nous dire ce qu'il en pense.
George Barnes, qu'on entend ici, est un de mes guitaristes préférés. Il est sur un thème qui est un standard américain très connu aux États-Unis. Il est là au sein de l'orchestre de Big Bill Bronzy, le premier guitariste à enregistrer avec une guitare électrique. C'est son frère, paraît-il, selon la légende, qui avait eu l'idée de mettre un micro dans le trou de la guitare pour qu'on entende la guitare électrique. On entend un George Barnes avec des phrases qui sont particulièrement bien déliées. Ça vient aussi de la culture américaine, de la guitare country. Ce qui veut dire simplement que, tout doucement, la mode, le son de la guitare électrique est entré dans les mœurs, devenu familier au public, mais on n'en est pas encore à avoir un instrument qui jaillit en pleine lumière. Il faudra attendre Charlie Christian qui
démarre avec une guitare amplifiée.
Alors lui, c'était le fils d'une famille de musiciens. Et il faut savoir que son père était trompettiste. Il naît à Dallas en 1916, mais il grandit à Oklahoma City. Il chante, il danse dans les concerts de rue qui étaient donnés par son père et ses deux frères aînés. Puis la directrice de son école, Mrs. Zella Bow, remarque ses aptitudes, l'encourage à étudier un instrument de musique. Et il commence alors la trompette, peut-être sans grande motivation, jusqu'à ce qu'en fait, son père décède en 1926 en lui léguant sa guitare. Alors je crois qu'à ce moment-là, il va acquérir de solides connaissances musicales.
Oui, Charlie Christian est un véritable musicien.
Oui.
Il apprend la fugue et le contrepoint, il connaît l'harmonie, c'est un musicien accompli. Il va jouer avec le trompettiste James Simpson et puis un autre guitariste qui s'appelle Ralph Hamilton, qui vont l'initier au jazz qu'il ne connaissait pas. Il est fasciné par le jeu de Ralph Hamilton et il tente de l'imiter. Il s'en démarque pourtant et préfère jouer des notes séparément plutôt que sous forme d'accord. Jouer un accord est tout à fait à la mode à cette époque-là. Charlie Christian a une autre idée, lui, de la guitare soliste. Pour lui, c'est s'approcher le plus possible du son du saxophone, un son délié avec des phrases particulièrement claires, parfaitement jouées. On va l'entendre un petit peu plus tard.
On va rappeler quand même, c'est la grande époque de Lester Young avec cette sonorité extraordinaire.
C'est la grande époque de Lester Young. Lester Young qui est donc Charlie Christian est particulièrement fan. Et Lester Young, on connaît ses audaces mélodiques.
Elle se prête
à merveille au swing.
Voilà, et peut-être c'est déjà le bebop qui est préfiguré par là.
Alors, pas tout à fait. Lester Young, on va pas parler de lui, il était un très grand saxophoniste, mm-hmm. mais ça fait partie de ces passeurs, des gens qui ont permis au jazz d'évoluer, passer du swing traditionnel au bebop. Mais Lester Young n'est pas un homme de bebop. Il faudra attendre un petit peu plus tard, il faudra attendre Charlie Parker, auquel Charlie Christian, d'ailleurs, va être associé pour la création de ce qu'on a appellera plus tard le bebop. D'ailleurs, les gens du bebop n'aimaient pas trop ça.
Quand vous dites plus tard, nous sommes en quelle année ?
Là, nous sommes à la fin des années 30. Le bebop va commencer au début des années 40 avec l'ouverture d'un bistrot, d'un bar à Harlem qui s'appelle le Milton House, et dans lequel les musiciens de jazz se réunissent after house, c'est-à-dire vers 3 heures du matin, après les concerts ou alors lorsque c'est relâche.
Et vous-même, vous avez participé ?
Au Milton's House ? Non, jamais, non. Malheureusement.
Mais vous étiez à Harlem quand même.
J'étais à Harlem, oui, absolument.
Et en quelle année ?
C'est fabuleux. Dans les années 70, c'est beaucoup
plus
tard.
Oui, mais quand même, c'est toujours aussi fabuleux.
C'est fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux. À cette époque-là, on avait tout à inventer. Puis il ne faut pas oublier que le bebop, c'est aussi une espèce de manière pour les musiciens noirs américains de s'affranchir de... Il faut dire aussi que dans ces clubs... où on pratiquait la jam session, le bof, on dit en français, venait qui voulait, et il y avait des musiciens qui prenaient la place de musiciens professionnels, qui n'arrêtaient pas de jouer, et les autres n'en pouvaient plus, donc si bien qu'un jour, ils se sont mis à jouer des harmonies très compliquées, qui gênaient terriblement, et ça c'était le rôle de Thelonious Monk, que Patrick aime particulièrement, de jouer des harmonies très compliquées, très complexes, que les amateurs ne pouvaient pas suivre. Et c'est comme ça qu'est né, finalement, le bebop, de cette façon-là, éliminant les mauvais.
Alors nous revenons en 1939, où Charlie Christian rencontre Benny Goodman, encore un grand nom, et nous allons écouter un petit peu cet enregistrement de 1939 avec un sextet.
Encore dans le swing avec Seven Come Eleven, Benny Goodman, Charlie Christian.
Là, on est en 1939.
On est en 1939. Le bebop n'est pas encore né tout à fait. Hein. On a peut-être été un peu rapide dans notre explication. Ça va
oui,
venir.
Parce que moi, j'aurais bien aimé que vous expliquiez ce que c'était que les riffs.
Les riffs, c'est pas propre au bebop, ça.
Non.
Le riff, c'est une phrase musicale qui vient soutenir, qui vient ponctuer une mélodie.
Ce sont des phrases très courtes.
Phrases très courtes. Dans ce que nous avons entendu tout à l'heure, on peut peut-être retenir... Et le babalabalala qui est répété, c'est un riff.
Ah d'accord.
C'est cette répétition qu'on appelle un riff. Toujours dans le swing, nous allons écouter à nouveau Charlie Christian, ce grand nom que Gilles aime tant, qui va nous jouer Swing to Bop, 1941. Voilà un riff, petites notes qu'on entend.
Quand on entend ces longues lignes mélodiques réellement éclatantes de verve, d'imagination et de rythme, on ne peut qu'imaginer aujourd'hui l'effet qu'elles purent avoir sur les contemporains de Charlie Christian et qu'elles ont encore aujourd'hui sur les guitaristes en devenir. On est en 1941, au Milton's, c'est un enregistrement pirate, c'est assez extraordinaire, mais en 1941, Charlie Christian entre en studio avec Benny Goodman et il enregistre les plages qui vont mettre le monde de la guitare de jazz sans dessus-dessous, Solo Flight, et ça va devenir la bannière, le modèle pour tous les guitaristes rythmiques, et désormais ils pouvaient prendre des solos, même dans le cadre d'un big band, c'est ce qu'on entend, ou c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec... 7 come 11.
Donc 1941, une grande année pour Charlie Christian, une grande année, mais malheureusement, il décède.
Malheureusement, ouais. Charlie Christian meurt de tuberculose en 1942.
Voilà, l'année suivante.
Et malheureusement, on n'aura pas pu entendre ce que Charlie Christian allait devenir, à mon avis, quelqu'un d'encore plus génial que ce qu'il était à l'époque. Il avait 25 ans.
Alors, je crois, Gilles, que tu m'as montré il y a quelque temps une phrase d'un critique qui parlait du successeur, si on peut dire, de Charlie Christian, en tout cas un grand admirateur, et il s'agit là du deuxième guitariste qui a été sélectionné par nous pour faire partie du triptyque des génies guitaristes, génie du jazz à la guitare. Alors oui, cette phrase, j'aimerais que tu nous la dises, d'un critique américain, il s'agit d'une présentation de Wes Montgomery.
Oui, c'est Ralph Gleason qui est un grand critique de jazz aux États-Unis qui disait « Ne vous y trompez pas, Wes Montgomery est la meilleure chose qui arrive à la guitare depuis Charlie Christian ». Quel hommage, c'est une phrase qui salua l'apparition sur la scène du jazz en 1959 de Wes Montgomery, dont la renommée ne fut pendant longtemps que local.
Oui, alors il faut dire qu'il est né à Indianapolis en 1923 et qu'il est en quelque sorte le prolongement naturel de Charlie Christian, dont la découverte tardive à l'écoute de Solo Flight le poussera à 19 ans à étudier la guitare en autodidacte. Et pour ne pas gêner ses voisins, il tente alors de reproduire les phrases de son aîné en jouant de son instrument en sourdine, utilisant le pouce à la place d'un médiator. Et est-ce que ça change beaucoup?
Ça change totalement. Bon, il faut dire aussi que Wes Montgomery disait lui-même, pour ne pas gêner mes voisins, j'ai joué au pouce, mais parce que le son du médiator ne me convenait pas.
Ah oui.
Il y avait ça aussi.
Oui, ça c'est très intéressant.
C'est très important. Il joue avec la pulpe du doigt et ça donne... C'est difficile.
Vous jouez aussi.
On peut jouer comme ça, oui, absolument. Mais il faut une très très grande maîtrise parce que le médiator apporte une plus grande vélocité. Or, Wes Montgomery est l'un des guitaristes les plus véloces de sa génération. Il y a beaucoup plus véloce aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire.
Ouais.
Mais il n'a pas inventé que cela. Ça, c'est
donc
une manière.
Les sons sont différents.
Les sons sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus doux. Les notes sont plus organiques, Et puis il prend l'habitude de doubler ses notes à l'octave.
Alors justement, avant de faire l'apologie de Wes, que personnellement j'adore, je crois qu'il faudrait l'écouter, et oui. Beaucoup de personnes reconnaîtront ce style très particulier.
Patrick, simplement une chose, c'est que on ne reconnaît pas trop le style de Wes Montgomery,
en tout cas
celui que l'on va connaître plus tard. Là, on est plutôt proche de Charlie Christian. C'est un enregistrement qui est assez rare. Ça s'appelle Brunt in Boogie. C'est enregistré avec le grand orchestre de Lionel Hampton en 1948.
Par contre, on a bien la guitare qui est au premier plan, alors que très souvent, elle est un petit peu en arrière. Là, on entend tout à fait le délié. Il est vrai qu'on n'a pas tout à fait la rondeur du Wes Montgomery qu'on connaît beaucoup plus tard. D'ailleurs, et la douceur. Ici, on a quand même un swing un petit peu plus violent.
Alors on a un swing très violent parce qu'il joue au médiator aussi.
Oui, c'est ça.
Il est encore au médiator. Mais on va écouter plus tard.
Les auditeurs ont bien compris ce terme-là, oui.
Médiator.
Oui.
Le médiator est un tout petit outil en forme de triangle. C'est un morceau de plastique qui permet d'attaquer les cordes de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante.
Oui, ça c'est très intéressant.
Alors, dans les années 50, Wes part sur un Indianapolis. Je crois, Christiane, que vous aviez quelque chose.
Voilà, il rentre à Indianapolis pour des raisons, disons, vraiment familiales. Et tout en travaillant pendant la journée dans une usine de composants de radio, il fonde le Montgomery Quintet avec ses deux frères, Woody, au vibraphone, et Monk, à la basse. Avec d'ailleurs lesquels il joue occasionnellement dans des clubs. Et de 1955 à 1959, il enregistrera en quintette, sous le nom de Montgomery Brothers, une série d'albums qui seront édités sur le label World Pacific de Dick Borg.
Alors écoutons encore un petit peu Wes Montgomery, qui n'est pas dans son acmé, dans le style qui est le plus connu, mais sur un classique qui est Billy's Bones, que tous les musiciens jouent. Enregistrement qui est de 1957, on vous donne les précisions dans un petit instant.
C'est fabuleux. Wes Montgomery, qui est le Wes Montgomery que l'on entendra et qui évoluera jusqu'à son décès, malheureusement, dans cet album qui s'appelle Finger Picking, qui réunit 7 morceaux gravés avec ses deux frères, d'ailleurs, et 5 autres musiciens, et parmi lesquels un jeune trompettiste qui s'appelle Freddie Hubbard.
Simplement, je voudrais dire à nos auditeurs, Gilles, que nous avons un petit peu squeezé le début de ce morceau Billy's Bounce pour arriver directement au solo de Wes, le premier solo.
C'est le premier solo et c'est celui qui nous intéresse le plus, évidemment.
Voilà, c'est pour ça que peut-être certains ne reconnaîtront pas le Billy's Bounce que tout le monde connaît.
Je rappelle simplement que ce disque compte 5 compositions de Wes Montgomery, cet album, et témoigne déjà d'un style original qu'il rendra bientôt célèbre. Et il y a 2 autres albums qui vont contribuer à le rendre encore plus célèbre, qui datent de 58 et 59, et qui donnent une excellente occasion d'entendre Wes à ses débuts et en petite formation. On va attendre l'arrivée des frères Adderley, Nat et Cannonball, qui vont découvrir Wes Montgomery. Mais Christiane peut-elle nous en parler ?
Oui, justement, il l'entend jouer, il lui propose d'enregistrer un disque sous son nom, Et le patron du label Riverside, Orin Kipnews, fait même le déplacement de New York à Indianapolis pour l'écouter jouer au Turf Bar toute la nuit. Et le 23 septembre 1959, au petit matin, Montgomery signe un contrat d'exclusivité avec Riverside Records pour qui il va enregistrer en leader, d'octobre 1959 à novembre 1963, pas moins de 25 sessions qui établiront sa réputation et compteront parmi les plus mémorables de sa carrière. D'ailleurs, je rappelle qu'en 1960, Wes est élu New Star Guitarist dans le pôle 1960 de la revue Downbeat.
Alors, nous allons écouter, après toutes ces paroles, un des disques, pour moi, un des plus grands disques de Wes, c'est West Coast Blues.
1960.
Toi, Patrick, c'est pour moi le meilleur de Wes Montgomery. C'est l'album The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery qui est resté dans l'histoire comme un monument de la guitare jazz. Il est accompagné là, de Tommy Flanagan au piano et puis des frères Heath, Percy et Albert. Et il déploie sans effort toute sa technique bop et son émotion sur des compositions mémorables comme... Four and Six, ou le fameux Air Gin de Sonny Rollins. Et les critiques tiennent ce disque pour le meilleur du guitariste. Je partage tout à fait cet avis. Je pense que...
Et moi aussi.
Wes Montgomery a un toucher ahurissant. Il est, on le reconnaît entre mille. Il y a une tendresse, une précision. Il est considéré comme le dieu de la guitare.
On écoute...
On dit qu'il joue divinement.
Il joue divinement.
On écoute.
C'est le dieu de la guitare, donc.
C'est un des dieux.
Et je crois que quand on le découvre, on n'entend plus cet instrument comme on aurait pu l'entendre
auparavant.
Absolument. Pour se faire plaisir, un petit peu de Four and Six.
J'adore.
Voilà, avec ce son un petit peu rond de Wes, une sonorité que l'on garde dans les oreilles toute sa vie.
N'oublions pas qu'il travaillait sans relâche, c'était vraiment un perfectionniste. Il doutait d'ailleurs de son propre jeu, peu sûr d'être capable de maintenir le haut niveau de ses solos nuit après nuit.
Au-delà du perfectionniste, il a quand même quelque chose de génial parce qu'il a inventé un style, il a inventé un son, il a inventé un jeu de guitare et il est reconnaissable entre mille. Il est absolument unique.
Attends, dans nos génies, nous parlions de génie de la guitare, le troisième compère, il s'agit bien sûr de Django Reinhardt qui lui aussi meurt. À 43 ans, donc très très jeune.
Django Reinhardt naît en 1910, lui, et il est en Belgique, à Liberchy, près de la frontière, du côté de Charleroi.
Tout le monde le connaît.
Peut-être, oui.
Oui.
Mais c'est notre Django Reinhardt national. Mmh. Il est génial, au même titre que Charlie Christian l'était et que Wes Montgomery l'était, parce que lui aussi a inventé de toute pièce, de rien du tout, un style, qui est le style de la guitare jazz manouche. Et il est considéré dans le monde entier, et par tous les critiques, par tous les amateurs de guitare, comme le maître absolu.
On écoute Django, Django 1939. ¶¶
reconnu I'll See You in My Dreams, un enregistrement 1939. Ça gratte un peu, ça souffle un petit peu au début. Il faut se rappeler que les enregistrements se faisaient en prise directe. Et I See You in My Dreams, qui est un standard de jazz qui date des années 20, est interprété ici de manière magistrale. On n'a pas entendu le solo, l'improvisation, qui est une improvisation type que tous les guitaristes apprennent, en tout cas tous les guitaristes en devenir également, apprennent par cœur, note à note, pour essayer de reproduire ce qu'il a fait. Il fait preuve d'une imagination extraordinaire qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans d'autres enregistrements comme celui que nous allons écouter maintenant.
Alors, la grande époque, bien sûr, c'est le quintet du Hot Club de France que nous écoutons tout de suite.
En octobre 1940, le précédent enregistrement, I See You in My Dreams, c'était également avec le quintet du Club de France. On n'entendait pas Stéphane Grappelli dedans, il ne jouait pas de violon. Ici, on est avec Hubert Rostin, on est avec Joseph Reinhardt et Francis Lucas, et également Pierre Fouad. Ça s'appelle Rythme Futur, et ça montre l'évolution du style et du jeu de Django Reinhardt au fil des années. En très peu de temps, il a réussi à parfaire son style, son jeu. C'est fabuleux.
Encore un petit peu de Django Reinhardt avec un titre clin d'œil. 1947, Pêche à la mouche.
Pêche à la mouche, effectivement, c'est un clin d'œil à ce que pratiquait Django Reinhardt à Samoa-sur-Seine, dans sa maison où il se retirait, la pêche. Et on peut dire que là, Django Reinhardt commence à maîtriser le bebop.
Oui, moi je voudrais terminer sur cette phrase de Cocteau, qui disait « Il a vécu comme on rêve de vivre en roulotte ». Chers amis auditeurs, notre prochaine émission portera sur les génies de la batterie. Ce sera vraiment deux musiciens exceptionnels, talentueux, attachants, que c'est à eux que nous consacrerons cette prochaine émission dans un mois. Mes chers amis auditeurs, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Christiane Blin, merci.
Merci Christiane Blin.